D'abord, merci. Vous dire d'abord l'état d'esprit dans lequel j'ai essayé de réfléchir à ce que je vais vous présenter. Je ne savais pas ce qu'allait présenter Laurence de manière précise, et donc je n'ai pas préparé de PowerPoint. C'est ça la vraie raison. Et j'ai bien fait, parce que la redondance aurait été très importante.
Heureusement.
Oui.
D'une certaine façon, heureusement.
Parce que finalement, entre Genève et puis la Bourgogne, puis l'Auvergne, il y a quand même des relations. Donc, j'ai pris le parti d'abord de présenter un point de vue. C'est-à-dire, entendons-nous bien, je vais essayer de donner une sorte de fresque de la manière dont je commence à avoir un certain nombre d'années derrière moi. Je peux regarder ce qui s'est passé depuis les années, le début des années 50, ou la fin des années 50, plus exactement. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire, en le mettant en perspective par rapport donc à des acquis dont beaucoup viennent d'être déjà exposés, et par rapport à quelques perspectives que j'évoquerai. Et une des questions qui reste tout le temps présente dans mon esprit, et Laurence vient de terminer sur la nécessité de comparer des méthodes, l'une des questions qui se pose à moi tout le temps, c'est est-ce qu'on peut comparer des méthodes ? Mais j'y viendrai tout à l'heure. C'est tellement compliqué, c'est tellement pluriforme qu'on doit, on doit s'interroger sur cette possibilité. On aura cette discussion tout à l'heure. Donc, premier point, alors vous savez, je suis psychologue, donc ça c'est la première chose, et il faut que vous acceptiez que mon discours va porter essentiellement sur ce qu'a fait la psychologie au cours de ces 57 dernières années. La première chose, c'est qu'il se publie chaque semaine ou chaque mois des milliers d'articles en psychologie. Il y a un nombre de revues colossal et personne ne peut lire tous ces articles. La plupart d'entre eux sont lus par un tout petit nombre de spécialistes et personne n'en entend plus parler. Puis, curieusement, il y a un petit nombre d'articles qui a un retentissement considérable, et donc on doit forcément s'interroger sur ce qui fait qu'à un certain moment dans l'histoire, certaines thématiques et certains résultats vont avoir un poids considérable, incomparablement supérieur à celui qu'ont d'autres articles tout aussi intéressants, publiés par des gens tout aussi éminents, mais qui ne rencontrent pas probablement une problématique sociale. Et donc, je vais commencer par quelque chose qu'Anne-Marie ou Jean Hébrard ou les historiens pourraient développer beaucoup mieux que moi, mais qui est pourquoi est-ce que le problème de la lecture s'est posé à un certain moment et comment il se fait que, à peu près au même moment, dans le champ qui est celui de ma discipline, on a vu apparaître des résultats suffisamment nouveaux pour que, par rapport à une question qui n'était pas vraiment récente, on ait pu proposer des modèles nouveaux et aller vers des propositions qui, aujourd'hui encore, sont pour la plupart compatibles avec ces modèles nouveaux. Alors, premier point, tout se passe dans les années 60. Tout se passe dans les années 60. Et mon sentiment, mais je répète, Anne-Marie serait mieux placée, mais je lis quand même ce qu'écrit Anne-Marie, ce qu'écrit Jean Hébrard et quelques autres. Il me semble que dans les années 60, on a assez brutalement un passage à la démocratisation du collège, et que ce passage à la démocratisation du collège va changer pour la plupart des enfants les objectifs qui sont assignés à l'apprentissage de la lecture. Pas tout de suite à l'enseignement, mais à l'apprentissage. En particulier, l'arrivée au collège me semble impliquer deux choses qui existaient avant, bien entendu, mais concernaient plutôt un petit nombre d'élèves, alors que là, ces habiletés, ces compétences, on peut les appeler comme on veut, vont être exigées de tous. Premièrement, une dominante de l'activité de compréhension, avec peu à peu une disparition de l'importance qui était accordée à la lecture à haute voix et qui va être remplacée par des activités qui vont privilégier la lecture silencieuse. Ça, c'est un fait extrêmement net dans toutes les années 60-70 dans notre école. Mmh. Et la deuxième chose...
72. C'est rendu obligatoire en 72.
Oui, mais en tout cas, ça court sur cette période. Et le deuxième point qui est moins saillant et qui est pourtant sans doute le point le plus essentiel, c'est que la lecture devient un instrument d'apprentissage. C'est-à-dire que le niveau de maîtrise qui est requis est sans commune mesure avec celui qui était atteint probablement déjà par beaucoup, mais qui devient cette fois indispensable parce que l'essentiel des apprentissages dans les champs disciplinaires du collège va se réaliser à travers la lecture. Voilà, il me semble que ces deux dimensions sont fondamentales. Il faut y ajouter, à partir des années 80-90, l'apparition des évaluations.
89.
Ouais, heureusement que j'ai pris une fourchette qui incluait la date.
Tu veux dire CE2 6e, les évaluations nationales,
oui,
CE2
oui, 6e, évaluations...
parce qu'il y a déjà des évaluations internationales.
Alors, j'allais dire, il y a aussi des évaluations internationales. En fait, oui. L'idée qu'une des façons de piloter les systèmes, c'est d'avoir des indicateurs sur leur performance. Et ces évaluations vont être internationales et nationales, et il continue d'y en avoir. Et ces évaluations obligent les pays, les régions, à réagir. La Suisse y a été confrontée, l'Allemagne y a été confrontée, il est probable qu'on va y être confronté, puisque comme vous le savez, les dernières sont un peu problématiques. Donc ça c'est un cadre général. Non, elles ne sont pas problématiques, mais elles sont présentées comme ça. Ah voilà,
oui,
non,
oui,
je suis
non,
d'accord
non,
avec
non.
ça.
Non, mais ça
mais elles sont présentées
c'est
comme ça.
C'est ça la médiatisation.
Et c'était la même chose pour l'Allemagne ou pour la Suisse romande. Et les pays, parce qu'ils sont confrontés à des positions politiques, doivent y réagir. Mm-hmm. Bon, je laisse. Si vous voulez, ce cadre général... que j'ai pas compétence à tracer, mais j'ai un bon contrôle, vous avez vu, à côté de moi. Ce cadre général, il est destiné simplement à essayer de comprendre comment les travaux sur l'arithmétique n'ont intéressé strictement personne pendant 40 ans. Tout le monde s'en fout. Alors, c'est peut-être moins vrai maintenant, alors qu'il y en a eu au moins autant, alors que les travaux sur la lecture ont été diffusés, on s'en est emparé, parce qu'il y a un vrai problème qui était sans doute celui-là. Au passage, vous remarquerez que le problème de l'écriture et de la rédaction n'a pas soulevé les mêmes questions. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la discipline qui est la mienne et qui est confrontée à ces questions sociales ? D'abord, il n'est pas sûr que ma discipline s'en préoccupe beaucoup. En tout cas, au début des années 60, c'est pas sûr du tout que ce soit là que se produisent les choses. Alors un point pour vous tous, la psychologie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une psychologie qui est, la psychologie expérimentale, hein, celle qui va être concernée aujourd'hui, c'est une psychologie qui s'est cantonnée à quelques champs très précis, la mémoire en particulier, et la mémoire des mots, et qui s'intéresse assez peu à des grands problèmes tels que ceux qu'on va évoquer maintenant. La perspective dominante, je dis bien dominante, je ne dis pas exclusive, parce que par exemple, ce n'est pas vrai à Genève, mais la perspective dominante est behavioriste ou associationniste ou les deux. Et tout ça va être balayé, c'est d'ailleurs très amusant, par une véritable révolution qui est une révolution qui vient des États-Unis et qui vient de la linguistique.
Oui,
Liliane, Chomsky. Tu es d'accord. Chomsky, pas la madame, mais le monsieur.
Pas Carole, oui.
Donc, le MIT, donc la grande institution qui bouillonne d'idées, Chomsky donc va publier un brûlot, un petit article qui va avoir une célébrité immédiate, article dans lequel il tue littéralement Skinner, c'est-à-dire le représentant le plus éminent du behaviorisme. Et en gros, son raisonnement, c'est le suivant. Vous allez voir, c'est terrible, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur le langage ne permet pas d'expliquer ce qu'est le langage, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de produire tous les énoncés nouveaux. Bon, donc, une catastrophe. Et en l'espace de quelques mois, tout ce champ, toutes ces connaissances accumulées qu'on est en train de retrouver aujourd'hui, ces connaissances vont disparaître. Et on va voir apparaître toute une série de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives. Mais évidemment, Les choses ne meurent pas comme ça. Et on va se retrouver à la fin des années 60, au milieu des années 60, avec différents courants qui vont travailler en parallèle et dont un va l'emporter très vite, alors qu'on ne peut pas comprendre, si ce n'est rétrospectivement, pourquoi il a eu cette importance. Donc, les courants en place, c'est Piaget à Genève. Alors, Laurence, pardon, mais Piaget à Genève dans les années 60 est au sommet de sa gloire. Mais en même temps, sur le plan de la recherche, c'est presque fini. C'est-à-dire, sa pensée va se diffuser partout, elle va être exploitée, utilisée, reprise avec la linguistique, avec la pédagogie, mais sur le plan fondamental, rien de nouveau ne va sortir de Genève. Ouais, c'est terrible comme constat, mais c'est pourtant comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les choses importantes se sont faites avant. Il y a les grandes synthèses, l'équilibration des structures cognitives, mais c'est tout. Donc, c'est pas là que vont se produire les grandes innovations. Pourtant, un courant, on l'a évoqué tout à l'heure, un courant va s'intéresser de plus près aux questions de lecture et d'écriture, et d'un certain point de vue, Laurence s'y rattache, d'un certain point de vue seulement, c'est le courant initié par Emilia Ferrero. Voilà. Mais c'est un courant extrêmement minoritaire, qui va avoir une importance très forte dans certains secteurs et sur certaines problématiques, celles de l'écriture, et dans certains pays, mais qui ne prendra jamais le poids, par exemple, qu'ont eu les approches phonologiques. Ça, c'est un premier courant. Un deuxième courant...
Alors, j'ajoute là-dessus, justement, quand on a fait le bilan de la recherche de la VST, pour votre petit dossier, on s'est rendu compte qu'en travaillant sur Internet, enfin, Annie Fefan pourra confirmer, tout ce courant Ferrero, mais ici Jean-Marie Besse, on pourrait dire, sur le, est extrêmement faible sur Internet. Et que, au contraire, tout ce qui est anglo-saxon est sur la totalité. C'est-à-dire que si on ne cherche pas ce courant parce qu'on le connaîtrait déjà par une autre d'autres filières, d'une certaine manière, on tombe pas dessus. Voilà.
Oui, et c'est pas lié simplement. On pourrait penser que c'est parce que les anglo-saxons ont écrasé ce courant, mais c'est pas du tout comme ça. C'est en grande partie lié à des faiblesses méthodologiques. C'est-à-dire la technique de preuve utilisée est insuffisante pour être recevable dans les revues internationales. Et si ces conditions avaient été remplies, mais ça aurait supposé de la part des auteurs un effort qu'ils ou elles n'ont pas fait. Donc si ces paramètres avaient été, si ces conditions avaient été remplies, ces recherches auraient évidemment été publiées. Donc je crois qu'il faut que vous sachiez ça aussi. Donc ça, c'est un courant. Et ce courant va continuer à travailler tout le temps. Et il va inspirer des gens, par exemple, Fijalkov est quelqu'un qui s'est inspiré de ce courant, maintenant. Et ce courant ressurgit d'un certain point de vue parce qu'il a apporté au moins un certain nombre d'idées qu'on aurait tort de négliger. Bon, mais là n'est pas l'essentiel. Il y a un deuxième courant qui est très faible, à la fois en nombre de chercheurs impliqués et en importance. Et pourtant, on a de la peine à comprendre pourquoi il est aussi faible. C'est le courant qui travaille sur la compréhension. Alors, de manière très étrange, alors que l'objectif de la lecture, c'est la compréhension. Je ne dis pas que la lecture, c'est la compréhension. Hein. Je dis l'objectif, c'est la compréhension. L'étude de la compréhension est une étude balbutiante pendant toutes les années 60, pendant toutes les années 70. Et finalement, il faut attendre les années 80 pour voir se développer le début d'un courant sur la compréhension des textes, avec en France, par exemple, Marie-France Ehrlich, et puis Martine Raymond, et en Angleterre surtout, Jane O'Keill, hein, et les gens qui travaillent autour d'elle, et qui vont développer cette problématique, qui reste extrêmement minoritaire aujourd'hui, alors que toutes les évaluations se font sur la compréhension, et la compréhension joue un rôle nodal. Vous voyez, c'est pas si simple de penser que parce qu'une chose est importante, forcément elle fera l'objet de recherche. C'est pas comme ça que les choses se passent. Donc, venons-en au point essentiel. Qu'est-ce qui va se passer et qui va permettre aux travaux sur la lecture d'occuper un tel poids? En fait, il me semble que l'essentiel se produit en 1979-1980-81, au moment où la psychologie cognitive va pouvoir se doter d'un modèle général qu'elle cherche depuis un moment et qu'elle n'avait pas trouvé. Qu'est-ce que c'est que la psychologie cognitive ? C'est un nouvel idéalisme. C'est l'idée qu'on peut aborder l'esprit de manière scientifique. Liliane, tu ne protestes pas. Donc elle ne proteste pas. C'est bien. En fait, voyez.
Donc vous croyez à l'esprit. Ça, c'est très bien.
Non, enfin, c'est une métaphore, bien sûr. Enfin, l'esprit. En tout cas, si vous voulez, ce qui est frappant, et je vais prendre volontairement cet exemple parce que je le crois tout à fait essentiel pour qu'on voit comment les choses se sont passées. Il se trouve que j'ai connu Xavier Seron, qui est un neuropsychologue éminent, au tout début des années 80, et que nous avons conservé d'excellentes relations depuis. Et au début des années 80, grâce à lui, j'ai pu être initié à ce qu'était la neuropsychologie, qui était pas vraiment nouvelle, hein, parce que Henri Ekan l'avait déjà développé en France, mais c'était un courant sans poids réel, y compris d'ailleurs dans le champ médical. Or, à la fin des années 70 et au début des années 80, deux publications, une en France, une en Angleterre, vont bouleverser le paysage. Ces publications vont pour la première fois donner l'idée de ce que pourrait être une étude objective du fonctionnement de l'esprit. Ouais. Comment ça fonctionne ? Vous voyez, l'esprit, c'est tellement vague qu'on ne sait pas du tout comment le prendre, par quel bout l'aborder pour l'étudier. Alors bon, les travaux de Chomsky parlaient de la grammaire, conduisaient des expériences sur la grammaire, mais c'était très modeste. Là, on va pouvoir développer une architecture de la manière dont ça fonctionne. Et c'est justement la lecture qui est concernée. Dans ces travaux de neuropsychologie, apparaissent aussi bien en Angleterre qu'en France, donc Beauvois et Derouenet pour la France, et Chalice et Warrington pour l'Angleterre, apparaissent deux idées. Premièrement, il est possible d'étudier le fonctionnement de l'esprit sans faire appel à des références anatomiques. Et quelqu'un comme Seron, qui est un neuropsychologue assez éminent, défend mordicus l'idée qu'on a parfaitement le droit et qu'il est parfaitement légitime d'étudier le fonctionnement de l'esprit sans se préoccuper de ses substrats anatomiques. Vous voyez, c'est une rupture très forte par rapport à ce qu'est la neurologie. En fait, la neuropsychologie se situe en contrepoint par rapport à la neurologie. Et la deuxième idée, c'est que lorsqu'on s'intéresse alors à la lecture, on observe en tout cas deux types de procédures, puisqu'on peut trouver des patients qui, d'une part, sont toujours capables de lire des mots qui leur sont familiers, mais qui ne sont plus capables de déchiffrer des mots ou des pseudo-mots nouveaux. Premier point. Donc, ça contribue à l'idée qu'on pourrait avoir une voie directe qui serait capable de traiter directement la forme des mots sans passer par un déchiffrage. D'accord ? Et on a une autre catégorie de patients qui sont capables de déchiffrer des mots nouveaux, donc d'utiliser le décodage, mais qui ne sont plus en mesure de traiter les mots anciens, dont pourtant on sait qu'ils les connaissaient. Et ceci accrédite l'idée qu'il y a une deuxième voie, qui est une voie, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, analytique, la voie du décodage, indirect. Et au fond, si vous regardez bien ce qui s'est passé depuis, ce qui s'est passé depuis, on peut dire que encore aujourd'hui, cette théorie, ce modèle à deux voies est un modèle dominant. Robuste. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas contesté. Des gens comme Seidenberg et Plot et d'autres défendent l'idée que ces deux voies ne sont que des manifestations, hein, mais qui en fait ne reflètent pas la manière dont fonctionnent nos systèmes cognitifs. D'autres continuent, hein, Coltart par exemple, à défendre l'idée qu'on a bien deux voies. Peu importe, c'est pas notre débat aujourd'hui. Ce qui est important, c'est ce que ça va induire. Alors vous voyez, au fond, à un certain moment, on a l'idée que lorsqu'on doit lire, il y a deux manières de s'y prendre. L'une qui est laborieuse, lente, qui procède par assemblage, hein, beaba, pour prendre des exemples assez récents, et puis une autre qui serait la possibilité de traiter directement les mots sans avoir à les décomposer. Et ceci va conduire un certain nombre de chercheurs à défendre l'idée que sur le plan de l'apprentissage, attention, on change d'étage en quelque sorte, sur le plan de l'apprentissage, il serait possible d'éviter de perdre du temps, puisque c'est un peu comme ça, et surtout de perdre de vue que l'essentiel, c'est la compréhension. Donc il serait possible d'éviter ceci en allant directement vers un traitement de la forme globale des mots, en s'appuyant sur cette forme et en s'appuyant sur le contexte. Ça, c'est Smith, c'est Goodman, et puis ce sera en France, évidemment, Jean Foucambert. Au fond...
Je peux dire une petite chose, oui, là. Oui. Ça donne du grain à moudre, effectivement, à la perspective vidéovisuelle, mais elle est déjà une lignée présente aux États-Unis, oui, pour d'autres raisons depuis 1896, dans la publication de... on verra, je ne suis pas sûr.
Ah, bon. L'historienne en sait plus que moi. En tout cas, cette possibilité va recevoir une sorte de caution scientifique. Et on va voir se développer une approche qui est, je dirais, sur le plan scientifique, assez légitime. Il n'y a pas de raison de penser, au moins dans un premier temps, qu'on ne puisse pas faire ça. Après, il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes de conditions d'expérimentation qui posent problème, mais sur le plan strictement scientifique, l'idée qu'on pourrait avoir une aperception globale des mots, pourquoi pas? Alors, on va régler ce problème de suite, puisque toute une série d'expériences va montrer que les effets de contexte sont dominants chez les plus faibles lecteurs, mais pas chez les bons, que chez les bons lecteurs, le contexte a un impact, c'est vrai, mais faible, et que c'est le décodage lui-même, ou l'identification des mots qui compte. Et d'autre part, on va montrer que, pour ce qui est de la forme globale des mots, qui est une sorte d'extrême dans le traitement, comme si on pouvait reconnaître les mots à leur allure générale, eh bien, la possibilité même de s'appuyer sur cette forme globale ne permet pas une identification précise des mots, parce qu'il y a trop de mots qui ont des formes équivalentes. Alors, en fait, si je vais aller vite, mais il faut que vous sachiez que ce courant n'a pas disparu. Bon, plus personne ne défend aujourd'hui l'idée qu'on pourrait apprendre la lecture et pratiquer la lecture de cette manière-là. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que sur le travail relatif à la forme des mots, on continue à avoir des traitements, à avoir des publications, notamment sur la fixation, les points de fixation de l'œil, où se pose l'œil pour assurer, je dirais, avec le maximum d'efficacité, l'identification des mots. Comment est-ce qu'on utilise effectivement la forme des mots? Est-ce qu'il y a des moments où elle facilite le traitement? Est-ce que toutes les lettres comptent? Il y a aujourd'hui un nombre considérable de travaux dans ce domaine. Je dirais que personne, même dans le public enseignant, n'en entend parler. Et c'est de la recherche de très bon niveau, de très haut niveau, publiée dans d'excellentes revues. Et il y a en France des représentants éminents de ces travaux, Gringer par exemple, à Aix sur les lettres, Bernard Lété sur les problèmes de l'utilisation de la forme globale, de la forme générale des mots. Bref, il y a de véritables travaux. Ce courant n'a pas disparu. Okay ? Simplement, son poids n'est plus du tout le même. Donc, l'autre approche, c'est celle qui considère que c'est l'approche en termes d'assemblage, l'approche indirecte, qui est l'approche la plus pertinente pour l'apprentissage de la lecture. Et c'est cette approche qui va l'emporter. Elle va l'emporter parce que elle va réussir à montrer que la phonologie d'une part et la connaissance des lettres, on en a peu parlé tout à l'heure, ont un poids très important, d'une part pour l'apprentissage du décodage, mais aussi parce qu'à travers l'utilisation du décodage, on mémorise la forme orthographique des mots. Vous voyez, il suffit, du moment qu'on observait deux voies dans la lecture, il fallait bien arriver à comprendre comment la voie directe, qui est attestée, en tout cas phénoménologiquement, pouvait se construire. Et si on ne peut pas la construire directement, alors il faut bien trouver un moyen pour qu'elle se construise. Et ce moyen, en fait, il n'y a pas très longtemps qu'on a pu mettre en évidence que le décodage était la voie par laquelle se construit le lexique orthographique, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser une voie directe. En fait, les travaux, c'est 1995, c'est David Cher, et 1999, 2004, etc. Donc, si vous voulez, cette voie est aujourd'hui la voie qui est considérée comme la voie d'excellence pour l'apprentissage de la lecture. L'essentiel des arguments repose sur, d'abord, l'observation, mais qui est ancienne, de corrélation entre les performances en lecture et les performances en conscience phonologique. On commence par des corrélations. Ensuite, par des suivis longitudinaux qui permettent de montrer... C'est pas un signal d'alerte. Qui permettent de montrer que lorsque... on suit les élèves sur une durée suffisamment, les enfants, sur une durée suffisamment longue, ceux qui avaient les meilleures performances phonologiques à un moment, mettons vers 5 ans, sont aussi ceux qui apprendront le mieux, le plus vite à lire. Et par ailleurs, le point le plus essentiel, c'est les études d'entraînement, donc Laurence vous les a évoquées tout à l'heure, qui montrent que quand on intervient, et quand on intervient notamment en l'équivalent de la grande section maternelle, on observe une amélioration de l'apprentissage de la lecture quelques mois après, quand cet apprentissage s'opère, et ce bénéfice se répercute, y compris sur la compréhension, plusieurs mois ou plusieurs années après. Donc, si vous voulez, c'est ça qui va constituer la preuve. Alors, même si ce que vient de vous dire Laurence montre que, quand on regarde les choses de très près, certes, on a des arguments, certes, il y a une amélioration, mais ça ne guérit pas les écrouelles, quand même. C'est-à-dire on n'a pas amélioré à 100% la situation. Un point quand même, les travaux de Torgeson et puis d'un autre, dont je n'ai pas retrouvé le nom tout à l'heure, montrent que quand on prend des élèves des enfants en grande difficulté ou à haut risque et qu'on utilise des entraînements alors sur des durées qui peuvent être extrêmement longues, on observe une amélioration considérable de l'apprentissage de la lecture, y compris sur ces populations qui sont des populations en grande difficulté. Donc vous voyez, c'est une façon de dire que cette approche est aussi une approche qui est pertinente avec des enfants qui présentent, eux, des difficultés importantes pour l'apprentissage.
Les enfants de classe de perf. Tu dis pas ça, mais c'est ça.
Je l'aurais pas dit ça.
J'aurais pas dit ça. Mais voilà.
Voilà. Donc, si vous voulez, les arguments en faveur de cette voie vont venir d'abord des pays anglo-saxons ou des pays nordiques. Et finalement, en France, ceux qui vont introduire cette approche, c'est Pierre Lecoq à Lille, c'est Gombert, et c'est Liliane Springer-Charol qui, elle, va développer la seule étude longitudinale sérieuse dont nous disposions. C'est quand même vrai. À partir de là, la question devient, et c'est là que je vais reprendre une partie des choses qu'a dites Laurence Riben, le problème devient, est-ce que c'est des méthodes ? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a observé, c'est l'utilisation de méthodes, et mon avis, c'est que ce qu'on a mis en évidence, c'est l'importance de, j'aurais tendance à appeler ça, des outils ou des techniques qui permettent, avec une application régulière, systématique, comme dans tous les domaines de l'apprentissage, qui permettent d'observer une amélioration de l'apprentissage. Alors, je ne dirais pas qu'on a affaire à des méthodes. Je ne crois pas même qu'il s'agisse de méthode.
Dis ce que tu entendrais par ce que serait une méthode.
Alors, à mon avis, une méthode, c'est beaucoup plus général que ce que je viens d'évoquer. Il me semble que quand on parle de méthode naturelle, on est beaucoup plus sur une philosophie générale de la manière dont doit se faire l'approche de la lecture et de l'écriture. C'est-à-dire qu'on plonge l'utilisation du langage écrit dans une perspective qui est une perspective de communication, et rien n'empêche, à l'intérieur d'une perspective comme celle-là, d'utiliser des outils, des instruments qui, à un certain moment, vont pouvoir permettre de travailler de manière spécifique tel ou tel aspect de l'apprentissage. Et il me semble que là, on a affaire à une méthode, et d'ailleurs, les approches whole language, qui sont les approches anglo-saxonnes, sont très proches, il me semble, dans leur philosophie de l'approche méthode naturelle.
C'est Dewey qui les soutient aux États-Unis.
Et en tout cas, aucun cas, ces approches en termes de méthode ne sont incompatibles avec l'utilisation d'instruments précis,
d'exercices,
qui, à un moment donné, peuvent être introduits pour améliorer la situation. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas, ça me paraît un point important.
Il faudra qu'on en discute tout.
Ça me paraît un point important parce que c'est là, si vous voulez, l'un des grands problèmes que posent les résultats qui ne sont pas contestables. L'un des grands problèmes que posent les résultats qui ont été mis en évidence au cours des 20 dernières années, c'est la mise en œuvre de ces résultats à travers l'activité des maîtres. Quand, comment, combien de fois, avec quel matériel. Et il me semble que ça vaut la peine de reposer le problème comme ça. Il me semble que si le ministre avait fait ça, il serait évité bien des désagréments, en tout cas. Deuxième chose, il me semble que les résultats des recherches posent un nouveau problème qui, d'ailleurs, s'est presque résolu de lui-même, qui est celui du statut de ce qu'on fait entre la moyenne section maternelle et le cours élémentaire première année. En fait, Jean Ferrier avait eu sans doute une excellente idée. L'idée des cycles est probablement une des idées les plus intelligentes qui a été proposée, puisque il me semble que ce qui ressortait de cette idée, c'était qu'on avait des objectifs de fin de cycle et que la question qu'on se posait, la perspective que l'on avait, c'était celle d'utiliser la durée entière du cycle pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire en acceptant des différences interindividuelles considérables, de manière à ce que, peu à peu, ces différences interindividuelles soit en quelque sorte comblé, au moins pour atteindre les objectifs. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça à propos de la lecture? Je pourrais le dire à propos de l'écriture. C'est que, lorsqu'on parle de conscience phonologique, lorsqu'on parle de connaissance des lettres de l'alphabet, lorsqu'on parle de mettre en relation la conscience phonologique et la connaissance des lettres de l'alphabet, on est bien obligé de s'interroger sur le décours temporel de ces apprentissages. On ne peut pas faire comme si les élèves qui arrivent en grande section maternelle ou en moyenne section maternelle en étaient tous au même point. On sait très bien, et là les travaux sont nombreux et sont convergents, que la syllabe est une unité facile, en français en tout cas, à délimiter, qu'en revanche le phonème est une unité très difficile à élaborer puisqu'elle n'est pas perceptible. Elle est forcément construite à travers des processus de catégorisation. Et donc, il faut bien s'interroger sur la manière dont cet apprentissage va pouvoir se réaliser chez les enfants. Donc, on va avoir des différences interindividuelles très importantes, et l'une des questions importantes, c'est comment est-ce qu'on va gérer ces différences interindividuelles. Je vous disais tout à l'heure que Torgerson montre très clairement que avec les enfants les plus en difficulté, donc il avait pris, je crois, les 20%
les plus faibles,
et il a réussi, après des entraînements qui ont duré pour certains 6 mois, pour d'autres 1 an, pour d'autres 2 ans, vous voyez, c'est quand même des perspectives longues.
Mais des entraînements hors classe
Certains avaient lu en classe et d'autres s'ajoutaient hors classe. Il me semble que c'est... Oui, en tout cas, ils étaient systématiques et liés à ce qui vous a, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, utilisation de la conscience phonologique, mise en relation avec les lettres, etc. Il a montré que on arrivait à ne, hélas, avoir encore 2% d'élèves qui n'apprenaient pas à lire, mais ça fait quand même un gain considérable. Mais vous voyez, il n'a pas travaillé sur 15 jours, il n'a pas travaillé sur 3 semaines, il n'a pas travaillé sur 2 mois, il a travaillé sur, pour certains enfants, quelques semaines.
En quelle langue ?
En anglais.
C'est en anglais.
C'est
hein
en anglais.
C'est en anglais.
Oui, c'est oui. En anglais. Voilà. Et il y a un autre auteur qui a fait à peu près la même chose, et j'arrive pas à retrouver son nom, je retrouvais. Non, c'était Lundberg. Non, Lundberg, c'est le premier à avoir fait ça. Mais il n'y avait pas l'idée de différenciation interindividuelle, d'accord, comme je viens de l'évoquer. Donc, je reviens à l'idée des cycles. Vous voyez, l'avantage de la conception des cycles, c'était qu'elle autorisait justement ce décours temporel avec des activités diverses. Par ailleurs, donc, je crois que moi, j'ai à peu près clos sur tout l'aspect voie indirecte. Je voudrais revenir maintenant à mes autres courants. Vous voyez ce que j'ai laissé tout à l'heure. Le courant sur la compréhension. Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Il nous apprend qu'en fait, les activités de compréhension ne dépendent pas de la lecture. C'est-à-dire, évidemment, les enfants ont une activité de compréhension bien avant que le travail sur la lecture ne commence. Et cette activité de compréhension s'exerce sur bien d'autres champs que le champ de la lecture. Le problème est bien celui de la mise en conjonction d'une activité de lecture d'un côté et d'une activité de compréhension de l'autre. Et ce point de conjonction est un point qui continue à faire problème. Alors, une des façons de l'aborder, c'est d'étudier s'il est possible de travailler systématiquement la compréhension. En fait, il n'y a que un nombre extrêmement restreint de travaux. C'est-à-dire, vous voyez, est-ce qu'on peut enseigner la compréhension ? La réponse semble être oui. En tout cas, Jane O'Keel, il y a déjà une dizaine d'années, a montré qu'on pouvait, en prenant des enfants qui sont de bons lecteurs, mais de faibles compreneurs, vous voyez, elle a éliminé la question du traitement du code, elle a montré qu'il était possible d'amener les élèves de CM1, puisque c'est avec des CM1 qu'elle a travaillé, d'amener des élèves de CM1 à percevoir les difficultés. Il était possible de leur enseigner les manières de les résoudre. C'était le cas notamment des inférences, du traitement des anaphores. Et elle a observé, elle a mis en évidence des progrès chez ses enfants. Question, est-ce qu'on peut faire ça à des âges plus jeunes, plus précoces ? Et les résultats qui vont être disponibles des travaux de Maryse Bianco à Grenoble montrent que clairement, oui. C'est-à-dire qu'il est possible, en travaillant sur des images, sur des textes présentés oralement, d'initier les enfants au traitement des inférences, au traitement des anaphores, et les évaluations qui sont faites ultérieurement montrent une amélioration. Donc vous voyez, c'est un autre courant, il est au moins aussi important que le premier, mais il n'a pas eu le même retentissement. Et pourtant, ce courant va poser le problème des relations entre la lecture en tant que travail sur le code et la compréhension. Et cette question-là, nous ne savons pas la résoudre aujourd'hui. Hein, personne. Et ça, c'est peut-être un problème de méthode ou un problème de technique ou un problème d'outillage. La question est-ce que on exerce le déchiffrage sur des mots isolés ou sur des configurations isolées pour aller peu à peu vers ce qu'était le système traditionnel, pour aller peu à peu vers le traitement de toutes petites phrases, puis de deux phrases, puis du texte. Vous voyez, ça c'est une question à laquelle personne n'a aujourd'hui cherché à répondre. Ou est-ce que on va essayer de ce qu'on fait sans doute aujourd'hui de manière plus courante, de partir d'un texte, qui peut être un texte littéraire, mais qui peut aussi être un texte produit par des élèves, pour en extraire des mots, et à partir de ces mots, aller vers une analyse de leur structure. Et au fond, les résultats qui étaient présentés par Laurence tout à l'heure suggéraient qu'on ait une approche en termes de fusion, ou une approche en termes d'analyse,
était sur le plan de l'efficacité non décidable. C'est vrai que nous avons vu à Stavanger au mois d'août, nous avons vu à Stavanger des résultats qui suggèrent que l'approche en termes de fusion était apparemment plus efficace pour l'apprentissage de la lecture, en tout cas sur l'anglais. Voilà, mais ça reste une vraie question, et cette question n'est pas aujourd'hui bien traitée, c'est celle des rapports entre, au moins, si vous voulez, au cours préparatoire ou à la fin de la grande section maternelle, la question des rapports entre compréhension et traitement du code. Mais il y a d'autres questions qui ne sont pas très bien abordées. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que probablement l'un des principaux résultats de l'approche en termes de phonographie ou de graphophonologie, c'était d'avoir montré qu'elle était capable, d'une part, d'expliquer l'apprentissage de la lecture au tout début, c'est-à-dire l'apprentissage du décodage, mais aussi l'apprentissage du lexique orthographique. Vous voyez, en quelque sorte, la même procédure conduit à la fois à un apprentissage procédural qui restera disponible toute la vie et qui nous permettra toujours à tous de décoder les mots nouveaux, et en même temps à la mémorisation de formes orthographiques dont on s'interroge aujourd'hui sur le fait qu'elles occuperaient, par exemple, une place particulière dans le cerveau. Hein, il y aurait une aire visuelle qui serait dédiée de manière spécifique à la forme orthographique des mots, qui est construite
par l'apprentissage.
Évidemment, qui ne peut pas résulter de l'histoire de l'espèce, puisqu'on ne lit pas depuis assez longtemps pour que notre cerveau ait réservé
un génome spécial, mais qui n'existe pas chez les illettrés, les analphabètes.
Exactement, qui n'est pas disponible chez eux. Et donc, enfin, là, les travaux sont en cours, puisque je sais que Moraïs et Dehaene sont en train de collaborer sur cette question. Vous voyez, en quelque sorte, on parasite des zones qui sont pour les unes dédiées au traitement des visages, pour les autres dédiées au traitement du langage, et il y a une sorte de nouvelle zone qui se créerait et qui serait liée justement à la mémorisation du lexique orthographique. Alors là-dessus, il faut dire que les travaux dont nous disposons, c'est quoi, 10 publications au mieux, et que pour l'instant, nous n'avons pas l'équivalent en français. Et cette question n'est absolument pas superflue, puisque nous savons qu'en français, le problème de l'orthographe, c'est-à-dire de la forme orthographique des mots, se pose notamment en termes de production. C'est-à-dire que la lecture peut s'appuyer sur des configurations orthographiques probablement assez approximatives. En tout cas, c'est ce que défendait Perfetti en 1992 et ce que suggèrent des travaux récents, notamment en Angleterre. En revanche, pour la production orthographique, le français est un système extrêmement irrégulier, inconsistant, et la forme orthographique des mots, donc celle qui est mémorisée, doit présenter un caractère de complétude beaucoup plus important si on veut pouvoir produire sans erreur la plupart du temps. On n'est pas encore dans les simplifications lexicales qui auraient amené à ce que le système français devienne complètement transparent. Et ceci pose le problème des relations entre l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage de l'écriture. Mmh. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on voit réapparaître la problématique qu'a énoncée tout à l'heure Laurence, qui est celle de la question d'une utilisation très précoce de l'écriture à deux fins. D'abord, l'écriture pourrait être un excellent moyen naturel, entre guillemets, d'obliger les élèves à faire de la décomposition en syllabes, en phonèmes. Alors, on a un nombre non négligeable de travaux qui sont tous un peu inspirés des méthodes naturelles. Donc, je pense que les plus célèbres, c'est ceux de Treiman, qui suggèrent que l'utilisation précoce de l'écriture pourrait amener justement des améliorations, non seulement, bien sûr, dans la graphie, mais aussi dans la conscience phonologique. Ça, c'est un premier point. Si vous voulez, c'est sur l'intérêt de pratiquer, par exemple, l'écriture en moyenne section et en grande section, en se disant que cette pratique de l'écriture, des écritures qu'on peut appeler inventées, qu'on peut appeler aussi par d'autres, qu'on peut qualifier autrement, mais la pratique de cette écriture pourrait avoir un effet positif sur l'apprentissage ultérieur de la lecture. Alors, bon, les résultats sont aujourd'hui encore difficilement décidables. On n'a pas suffisamment de travaux pour faire une méta-analyse et on n'a pas non plus suffisamment de résultats probants pour pouvoir affirmer ça. L'autre dimension, c'est que la pratique de l'écriture des mots contribue à leur mémorisation. Et là-dessus, les choses sont plus claires. Il me semble qu'on a des résultats plus probants et on sait même qu'il vaut mieux faire écrire les mots que de les faire taper à la machine. Hein, il semble qu'on ait une meilleure mémorisation dans le premier cas que dans le second. Donc, il me semble...
Pour les enfants qui ne savent pas taper à la machine.
Mais ils ne savent pas non plus écrire puisqu'on est au tout début.
Oui.
Hein, donc, ils sont à égalité d'incompétence.
Non, mais ça veut dire que le problème... c'est important parce que le problème, c'est peut-être le contrôle visuel sur la plume qui n'est pas possible à la machine de la même manière.
Oui,
donc, mais ça pourrait être autre chose.
Notamment proprioceptif,
vraisemblablement.
Bon,
enfin bref.
Bon, en tout cas,
on en reparlera parce que c'est très important pédagogiquement. Ça.
D'accord. En tout cas, vous voyez, j'ai pas voulu évoquer ça tout à l'heure, mais une méthode comme la méthode naturelle de Freinet a probablement beaucoup bénéficié du fait d'utiliser l'imprimerie. Mmh. C'est probablement en partie grâce à ça que les enfants ont pu démarrer l'apprentissage de la lecture, parce que la décomposition était pratiquement imposée par... Alors, pour le coup, c'est un apprentissage implicite. Hein. C'est-à-dire, c'est extrême. Donc, je crois qu'il faut être assez prudent sur le fait de dire qu'il faut privilégier l'apprentissage explicite, et tout simplement parce que quand on contraint suffisamment l'environnement, on peut induire des apprentissages qui peuvent être aussi efficaces, hein, et qui peuvent être repris après de manière explicite. En tout cas, ça vaut la peine de regarder les choses comme ça. Bon, donc, en tout cas, le problème des relations entre lecture et écriture se repose aujourd'hui d'une manière très claire, et quelqu'un, par exemple, comme Virginia Berninger, qui est à Washington, travaille depuis sur des cohortes qui sont suivies pendant plusieurs années, justement pour essayer d'étudier comment se pose le problème de ces rapports. Est-ce que l'écriture influe positivement sur la lecture, et inversement, est-ce que la lecture a une influence en retour, et à quel moment ? Caravolas aussi. Et pour l'instant, ces travaux semblent suggérer, mais on n'a pas toutes les données, qu'on aurait effectivement un effet à court terme sur l'apprentissage de la lecture, et qu'on aurait ensuite un effet en retour de la lecture sur l'apprentissage de l'orthographe et de l'écriture. C'est-à-dire qu'en plus, c'est en train de se compliquer considérablement. Et évidemment, tout ça, il me reste quoi ? 5 minutes ?
Oui.
Et tout ça,
7 minutes.
Et tout ça avec un problème qui n'est pas abordé et qui est très très embêtant, qui est comment procèdent les enseignants. Vous voyez, je crois que ce qu'a permis comme avancée la discipline que je représente ici, c'est de mettre en évidence l'importance de certaines dimensions, la dimension phonologique, la dimension liée à la connaissance des lettres, la nécessité de travailler les deux, et pas seulement l'une ou l'autre, puisque c'est le travail des deux qui est le plus efficace. Très probablement, on mettra en évidence l'importance de l'écriture. Ce n'est pas tout à fait fait. Le problème, c'est de comprendre comment elle intervient et sur quel délai. On a pu mettre en évidence la possibilité d'influer sur la compréhension, ce qui n'est quand même pas négligeable, et de la travailler très tôt. En revanche, tous ces travaux sont faits comme si, j'allais dire, c'était naturel, au sens où, comme si les choses se déroulaient sans qu'il y ait d'intervention, ou tout au moins comme si toutes les interventions se valaient. Et vous voyez, je crois que ça, il faut que ma discipline reconnaisse que c'est une faiblesse extrêmement importante. Et que cette faiblesse ne doit pas nous amener à conclure qu'on ne peut rien décider, mais simplement qu'il faudra un jour ou l'autre s'intéresser. Alors, je ne crois pas qu'on puisse évaluer les méthodes. Je crois pas. Je crois que c'est comme si on voulait évaluer l'efficacité des approches médicales. Vous voyez, donc on prendrait des médecins, on aurait un qui pratiquerait, je sais pas moi, l'ergothérapie, enfin peu importe. Je crois qu'en revanche, ce qu'on peut évaluer, c'est non seulement les outils qu'on fabrique, mais la manière de les utiliser. Et j'ai défendu, il n'y a pas très longtemps, dans un petit article, l'idée que la formation des maîtres pourrait s'intéresser d'une manière très précise, d'une part, aux outils qu'il est possible de fabriquer, et il est possible d'en fabriquer. Par exemple, dans le champ de la compréhension, le CRDP de Dijon a construit une série de petites activités qui courent sur l'ensemble du cursus élémentaire. Et ces activités, ce sont des activités papier-crayon que les maîtres peuvent mettre en œuvre dans leur classe. Et ce qu'il faudrait ajouter, c'est que ces outils ne sont pas indépendants de l'utilisation qu'on en fait. Et donc, il faudra un jour ou l'autre accepter que on étudie la manière dont les enseignants utilisent ces outils, non pas pour évaluer les enseignants, c'est pas le problème, mais pour essayer de déterminer comment ces outils peuvent être utilisés de manière optimale, notamment si on veut respecter quelque chose de fondamental, c'est la liberté de choix des méthodes. Vous voyez, et c'est là que la différence entre méthode et technique prend toute son importance. Si on dit que les maîtres ont le choix des méthodes, c'est-à-dire s'ils ont le choix d'organiser leur enseignement de la lecture et de l'écriture à partir d'albums. Si on veut qu'ils puissent organiser l'enseignement de la lecture et de l'écriture à partir de la correspondance scolaire. Si on veut qu'ils utilisent le roman scolaire. Après tout, pourquoi pas? Mais il ne faut pas pour autant les laisser dans l'idée que le choix de la méthode suffit à assurer les apprentissages. Ça, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Il faut donc veiller à ce que on puisse mettre au point des outils, qu'on puisse veiller à déterminer comment ces outils peuvent être utilisés, et ça, nous pouvons l'évaluer. C'est-à-dire, il y a un travail considérable à faire sur la manière dont ces outils peuvent être mis en œuvre, des pratiques, mais des pratiques techniques, vous voyez, qui ne vont pas hypothéquer les choix philosophiques, méthodologiques des enseignants, donc qui sont compatibles avec eux et probablement avec tous. Et alors, je terminerai en disant, il n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. On a créé une agence qui s'appelle l'ANR, qui est dotée de sommes colossales, et qui peut distribuer sur des problèmes comme ceux qu'on vient d'évoquer des sommes considérables sur des programmes à 3 ans et à 4 ans. Le problème n'est pas qu'on n'a pas d'argent. Le problème, c'est l'élaboration de programmes qui soient susceptibles d'être évalués par des experts internationaux et qui, évidemment, sont des gens qui connaissent leur métier et qui vont donc être sévères sur un point, la fiabilité des données qui seront recueillies et donc qu'on pourra exploiter. Voilà. Merci.
5 minutes pour des demandes d'éclaircissement et des questions. Mais pendant que vous les cherchez, Jérôme, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le repas? Parce qu'on va arrêter assez vite de manière à reprendre un peu plus tôt, sachant que on ne peut pas tous vous accueillir au restaurant de l'ENS parce que non, c'est pas possible. Donc, il va falloir se disperser dans le quartier pour trouver de bistrots. Il y en a beaucoup. Ceux qui connaissent des gens de la maison peuvent accompagner ceux qui iront manger au restaurant et se faire. Mais il n'y a pas de ticket d'extérieur. Donc, il faut que vous ayez quelqu'un de la maison qui vous prenne en charge sur sa carte et que vous rembourserez. Mais donc, c'est limité comme possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le... Et on recommence bien à 1h30 cet après-midi ici.
Il y a des thèmes de débat, j'aimerais bien...
Un petit plan de situation à l'extérieur, là, pour vous aider à...
D'accord. À donc, vous trouverez ça en sortant. Alors, on revient
Peut-être deux éléments, je dirais, de confort. D'abord, on fermera la salle à clé. Donc, vous pouvez laisser...
vos sacs, ils ne seront pas volés.
Peut-être même les micro-ordinateurs. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. D'autre part, pour ce qui est des diaporamas et de l'enregistrement des orateurs, s'ils en sont d'accord, bien sûr, tout ça sera mis en ligne.
Oui, oui.
Y compris même des couplages entre ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. Donc, ça vous évite d'avoir à noter trop fiévreusement. Trop. Voilà.
Oui, oui, non, mais ça fait partie du processus de compréhension, non pas de la lecture, mais de l'audition. Voilà. Alors, Michel, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, je veux dire, je vous ai simplifié la vie puisque j'ai rien à voir.
C'est vrai, de ce côté-là, tu es très à bas coût. Voilà, le scientifique de haut niveau à bas coût. Oui. Alors, une seconde, le micro arrive et on se présente.
Merci. Je crois savoir qu'au Canada, justement, on n'enseignait pas.
On n'entend pas mieux.
Je parle trop loin ? C'est mieux là. Voilà. J'avais peur de cracher dedans.
Au Canada, on n'enseigne pas.
Je suis institutrice.
Oui.
C'est très bien, continuez.
Je crois être très minoritaire dans la salle. Et j'ai, pour avoir scolarisé des enfants canadiens, je crois savoir, donc en tout cas au moins dans quelques
francophones.
Des États, non, anglophones.
Anglophones.
Région anglophone, Toronto. Hein, que l'enseignement de l'écriture n'était absolument pas enseigné autrement que par l'imprimé, c'est-à-dire le geste graphique, n'était pas enseigné avant l'équivalent de l'accès au
CE2.
Oui. Et donc, et c'était d'ailleurs très étonnant, il a appris à écrire chez moi, parce que forcément, par rapport à un enfant français, il était très décalé. J'ai des CM, des CE2, CM, enfin...
Plus près.
J'ai des cycles 3 habituellement. Et donc, je pensais que le Canada, qui est assez producteur d'études, aurait produit des études justement sur l'effet du geste graphique.
Non,
je n'avais pas connaissance.
Non. Il me semble que les études les plus nombreuses sont faites en Angleterre, mais pour une raison qui tient à un principe de l'enseignement anglais et qui est que on commence par enseigner l'écriture script et on passe très tard à la cursive. Et ce passage est redoutable pour les enfants. Alors que chez nous, le problème ne se pose pas comme ça, puisque l'enseignement, voilà.
Je me souviens avoir été dans une classe à Genève au deuxième trimestre de deuxième primaire, c'est-à-dire l'équivalent de notre CE1, le jour où la maîtresse introduisait le changement d'écriture. Et pour moi, arrivant de France, c'était une curiosité extraordinaire parce que j'imaginais pas à quel point, effectivement, à la fois, c'était solennisé. C'était la dernière année. Après, on a permis aux enseignants de l'introduire de manière beaucoup plus ordinaire. Mais là, il y a des traditions culturelles extraordinairement différentes entre pays anglo-saxons depuis 1920, pas avant, où avant tout le monde est en cursive, et les pays comme la France.
Oui. Oui.
Alors.
En Angleterre, on écrit beaucoup très tôt, hein, et très mal. C'est-à-dire sans tenir compte justement de la forme graphique, avec l'idée que ce qui est important, c'est que les élèves produisent sans avoir de contraintes qui les amèneraient justement à ne pas produire ce qu'ils ont envie de produire. Oui, et c'est en plus un geste qui est soumis à des questions de maturité, à des problèmes de maturité importants.
Laurence,
je voulais dire, effectivement, à Genève, c'était Robert Dautrand qui a été à Genève le champion de l'écriture script. Il avait publié à l'époque là-dessus. Quand moi, j'étais élève d'école primaire, c'est-à-dire il y a longtemps, on apprenait à écrire en écriture liée qu'en cinquième primaire, donc encore beaucoup, beaucoup plus tard. Et là, c'était vraiment un changement assez dramatique. Mais alors, actuellement, effectivement, à Genève, on a passé à l'écriture liée dès le départ. Et c'est une question qui a beaucoup préoccupé les enseignantes de la maison d'IPTI, donc relativement récemment, parce qu'elles se demandaient comment est-ce qu'elles allaient pratiquer lorsqu'elles font des textes de référence
au
tableau, et ensuite de la part d'enfants de 5 ans qui n'ont pas encore commencé des leçons d'écriture formellement non plus. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà, à ma connaissance, on aurait aussi besoin de travaux qui comparent systématiquement le lien entre le système d'écriture utilisé en début, tout en début d'apprentissage, et l'apprentissage de la lecture. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose.
Oui. Et il n'y a pas de choses non plus sur la lecture, parce qu'une des constantes au XVIIe siècle, par exemple, c'est qu'il y a des gens qui savent seulement lire, oui, mais dans une seule écriture. Ils ne savent pas lire la calligraphie, qui est un apprentissage, enfin l'écriture à la main, qui est un apprentissage totalement différent et indépendant. Et on le constate aujourd'hui. Moi, j'ai un petit temps où j'étais à Moscou, j'ai réussi à lire assez bien en capitale cyrillique. Mais quand j'étais avec les enfants, je lisais absolument rien de ce qu'ils écrivaient. Incapable.